Volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Bonjour à tous, mes invités aujourd'hui dans le volume sur 11, Edith Nylon, légende du rock français. Un groupe qui a sorti 4 albums dans les années 80, qui s'est reformé en 2020. Retour sur scène, nouvel album en 2021. Les affaires reprennent. Bonjour Edith Nylon.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Antoine. Alors,
j'ai avec moi donc Mylène, Zacho, Albert.
Voilà.
Et voilà.
il nous manque.
T'as réussi à en avoir 3 sur 4, c'est pas mal.
Ouais.
Hein.
Ouais,
c'est pas mal. Je suis super content. Ouais. Alors dites-moi, bon, d'abord, première chose, vraiment, qu'est-ce que ça vous a fait de remonter sur scène après toutes ces années?
D'une part, on appréhendait ça quand même, en tout cas la première fois quand on est reparti sur le petit bain. Mais on a énormément travaillé tous de notre côté ensemble avant. On s'est vraiment préparé énormément. On appréhendait ça et puis la minute où on est monté sur scène, tout a repris comme si on n'avait jamais quitté la scène. Alors moi, je me demandais comment j'allais bouger, comment ça allait se passer, comment j'allais pouvoir chanter, etc. en même temps. Et puis en fait, c'est revenu tout seul. La même énergie, la même pêche, la même passion. C'était absolument extraordinaire, en tout cas pour moi.
Ah oui, c'est tout à fait, c'est un sentiment tout à fait partagé. C'est vrai que dès la première minute où on a posé le pied sur scène, franchement, on s'est complètement lâché. Et puis, tout est revenu, les automatismes. Et puis bon, surtout, le plaisir de jouer ensemble et puis tout ce qui va avec.
Puis on était prêts, on a beaucoup bossé. En fait, on avait cette culture du travail en musique quand on répétait nos albums, etc. Mais on répétait comme des malades. Toute la journée, tout le temps. Enfin, on a toujours essayé de préparer à l'avance. Et donc, quand on arrive sur scène, on était assez décontracté grâce à ça, justement.
Et ce qui était évidemment, c'est toujours dans les deux sens. C'est-à-dire, ce qui était extraordinaire, c'est l'accueil que nous a fait le public. La salle était pleine et les gens connaissaient les paroles mieux que moi. Donc il y a eu un retour et il y a eu un espèce de, et dès qu'on a vu ça, forcément ça nous a donné confiance, ça nous a redonné cette énergie, cette pêche. Donc c'était quand même une expérience à deux, et je pense que le public se demandait aussi quelle tête on avait, qu'est-ce que ça allait donner. Donc c'était assez extraordinaire. C'était comme si on était entré dans une espèce de capsule du temps où toutes ces années passées ont complètement disparu. On s'est retrouvés du temps des années 80, du temps d'Edith Nylon. C'était le même effet, c'était extraordinaire.
Alors, c'est vrai que moi, j'étais dans le public pour les deux concerts. Donc, et effectivement, moi, je ne vous avais pas vu à l'époque, en fait. J'étais trop jeune. Donc, j'avais pas le droit de sortir, en fait. Et effectivement, il y avait une énergie qui était complètement dingue. Et alors, Ça m'a amené à me poser quand même la question, c'est qu'est-ce qui vous a pris, en fait, d'avoir cette envie de reformer le groupe après pratiquement 40 ans de break?
Zacho, tu veux vous raconter?
Oui, non, disons que pendant... Bon, on a chacun construit sa vie, disons, de son côté, évidemment, mais toujours, on est toujours resté, évidemment, et on est la famille et aussi les amis, le groupe. Laurent, c'est notre frère, voilà. Albert, Mylène et moi, on est frères et sœurs. Albert, c'est mon cousin, notre cousin. Et donc, on est resté tout le temps ensemble, en fait, connectés, voilà. Et on n'a jamais, on a eu toujours cette impression que on n'avait pas fini le travail, voilà, qu'on
Exactement.
Avait encore des choses à faire. Et qu'un jour viendrait peut-être le moment où eh ben on recommencerait à cette histoire-là. Et le moment est venu quand Mylène l'a décidé, puisque évidemment sans Mylène c'était pas possible, et c'est elle qui a eu l'impulsion, qui a dit bah, j'ai envie comment, et quand elle a envie d'un truc c'est compliqué d'aller contre, hein. Et donc non, mais c'est gentil ce que je dis.
Oui, c'est très gentil. C'est très gentil.
Et donc... Oui, vas-y, vas-y.
Oui, c'est-à-dire que ça nous, c'était toujours là pour nous. Ça nous a toujours un peu trituré. Et en 2019, j'étais invitée à chanter des reprises dans un concert, dans un truc de conférence. Et puis, j'ai remis les pieds sur scène et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai chanté des reprises. J'ai appelé tout de suite Zacho, Albert et Laurent. J'ai dit, il faut qu'on recommence. C'est pas possible. Donc voilà. Donc, on s'est remis à la tâche en 2019. Et puis, on s'est retrouvés. On a recommencé à répéter. On a monté un projet, justement, de reprendre des concerts, de refaire des morceaux. Et Zacho et Laurent avaient plein de choses dans leur valise. Donc, on a repris tout ça et on a refait un album entier.
Oui, c'est ça. Parce que justement, il y a plein de groupes en fait, qui travaillent sur finalement leur répertoire passé. Alors, vous, effectivement, ça a super bien marché. Enfin, effectivement, le public connaissait les paroles par cœur, mais vous êtes allé encore plus loin en composant un nouvel album, ce qui est audacieux quand même.
Ben, on s'est dit qu'il fallait pas revenir, revenir et montrer que on avait encore des choses à dire. C'est-à-dire qu'on avait deux choix en fait. Soit on revenait, on faisait un concert comme ça ou deux concerts, et puis merci beaucoup, on s'est bien amusé, nos enfants nous auront vus sur scène, etc. Soit on se disait on va faire un truc comme on fait d'habitude. C'est-à-dire, on va au bout des choses. Et aller au bout des choses, c'était écrire un nouvel album, faire plus que un ou deux concerts à Paris. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, on voudrait essayer de préparer une tournée en France. Et donc, aller au bout des choses, voilà, continuer, voilà. Puis on verra ce que ça donne.
Ouais. On va faire un petit retour en arrière pour ceux qui vous connaîtraient pas. Qui était vraiment là très 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 jeune. Le groupe s'est séparé en 84 après 4 albums, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a décidé à l'époque d'arrêter?
Comme plein de groupes, et quand on y réfléchit, les Beatles n'ont pas duré très longtemps non plus. Certaines tensions internes qui étaient un peu déclenchées par, je dirais, des tensions externes, c'est-à-dire complications avec les maisons de disques, difficultés de vraiment grandir rapidement, et puis surtout le fait, et tout ça du fait que la scène du rock à l'époque, quoiqu'elle foisonnait un peu, la France et l'audience étaient toujours encore accrochés à la variété française. Donc, on est quasiment arrivé beaucoup trop tôt, 10 ans trop tôt, 15 ans trop tôt. Donc, on a vu qu'il y avait, on a eu un certain succès, mais on voyait bien que pour aller plus loin et pour en faire un vrai métier comme les Anglais le font ou les Américains le font, et où faire du rock, c'est considéré comme un vrai métier. En France, on s'est retrouvé un peu mis de côté, donc ça nous a un peu dérangé, donc ça a créé un tas de tensions, et puis on s'est dit c'est trop difficile.
Ouais, c'est ça. Il faut bien comprendre à l'époque, hein, par exemple, trouver des salles de répétition, c'était impossible. Aujourd'hui, il y en a partout, mais nous, trouver un local de répète, c'était la galère monstre. Ou alors ça coûtait des fortunes, donc c'était très très compliqué. Après, la deuxième chose, c'est que les maisons de disques ne jouaient pas vraiment le jeu. Et voilà, nous, notre maison de disques CBS a joué le jeu du premier album, le nôtre, a joué le jeu du premier album de Trust, et puis c'est à peu près tout, hein, ce qui s'est passé. Et très vite, pour eux, c'était l'éphémère. Ils gagnaient de l'argent avec Annie Cordy. C'était ça qui faisait les maisons de disques. C'était ces trucs-là. Donc nous, on s'est dit, soit on devient un peu, ça devient un peu galère, et c'est pas trop notre truc. Soit ça devient mainstream et en France, c'était très compliqué. Il y a eu
Exactement.
téléphone, je trouve que c'est un peu une exception pour moi.
Ouais. On n'avait fait qu'un album, en fait, chez CBS.
On a fait non, les deux premiers albums,
Ouais,
le single Femme sous cellophane et l'album de
quatre
quatre
essais.
essais philosophiques
Ouais.
chez CBS. On a fait tout ça chez CBS. Mais sans promo, sans rien. C'est-à-dire, le premier, ils ont joué le jeu, on est passé un peu
Oui.
partout, à la télé, machin. Puis après, bon, bah, ils ont vu qu'on a vendu à l'époque, je sais pas, 70, 80 000. Pour eux, c'était que dalle. Le kazoo de Annie Cordy, ils en vendaient 3 millions. Donc, qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre de nos trucs? Et donc, voilà, ça s'est vite délité avec eux, je dirais.
Ouais, on
Aujourd'hui,
est vite passé
80 000.
en priorité 3, c'est clair.
Alors qu'aujourd'hui, 80 000, c'est énorme.
C'est énorme,
Ah ouais,
évidemment, c'est monstrueux. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, quelqu'un qui vend 10 000, il est premier au top 50.
ouais.
Vous êtes né du punk. C'était quoi être punk dans ces années, fin des années 70, début des années 80?
Bah, c'était surtout quand on a démarré le groupe, on a tout de suite voulu faire nos compositions à nous. On a absolument pas fait des reprises. On a tout de suite été à Londres et on a tout de suite été voir tous ces groupes dont on est toujours toujours fanat, les Clash, les Siouxsie and the Banshees, les Cure, et ça nous a complètement complètement inspiré, influencé, et donc on a pour nous enfin pour nous, punk, c'était la musique, c'était les textes, c'était bien sûr une attitude aussi. Mais je dirais, on a exprimé ça à travers notre musique plus qu'à travers notre attitude, je dirais.
Bah en fait, oui, c'est ça, le punk, pour moi, à l'époque, le punk, c'était l'autorisation de faire de la musique. C'est-à-dire, on sortait, enfin, moi, j'écoutais du rock progressif, les Genesis, Yes et compagnie, Emerson, Lake and Palmer, machin, tout ça. Et donc, eux, avec cette musique-là, on n'avait aucune autorisation de faire de la musique parce que fallait être méga virtuose, c'était très compliqué. Et donc, tout d'un coup, arrivent des petits gars sur scène. On avait vu, je crois, les Buzzcocks, où ils mettaient un tableau avec les accords des morceaux pour que tout le monde puisse les jouer quand ils rentrent chez eux. Donc, nous, on s'est dit, tiens, en fait, on a le droit de faire de la musique. Il n'y a pas que des types qui ont fait le conservatoire à Londres qui peuvent le faire. Et on peut le faire non seulement en tant que musicien débutant ou amateur ou voilà, mais aussi en tant que français. Donc c'était pas mal ça. Et moi j'ai trouvé que c'était une porte qui s'est ouverte.
C'est
Pour moi
vrai,
c'était
c'est
ça le
vrai.
punk.
C'est
Ouais, c'est
vrai,
vrai.
c'est vrai. C'était la démocratisation du
Exactement.
rock. Et on sortait effectivement des années 70 où, si on écoute les Doors aujourd'hui, le Ray Manzarek, c'est du délire ce qu'il fait. Donc, effectivement, ça nous a permis à nous de nous dire, ben, nous aussi, on peut le faire. Enfin, Zacho, toi, tu étais quand même musicien. Laurent
Oui.
aussi, vous étiez un bon guitariste. Mais moi, j'avais jamais chanté. J'avais chanté dans une chorale à l'école. Mais effectivement, c'était l'autorisation de pouvoir faire de la musique et puis de pouvoir écrire des textes et raconter nos histoires, raconter des choses qu'on avait à dire.
Ouais. C'était des textes un peu radicaux quand même. La joie à Femme sous cellophane ou Édith Nylon, enfin, il y a des trucs sur le transhumanisme, sur un futur qui finalement était assez bien vu.
Ah bah oui, ça c'était les textes de Mylène complètement prémonitoires. Elle a décrit ce qui se passe aujourd'hui. C'est assez fascinant. Elle a parlé effectivement de tous les problèmes qui sont devenus maintenant notre quotidien, mais qui n'étaient pas trop à l'époque. C'est assez incroyable, oui, quand elle parle dans la chanson Le meilleur des amours, où elle parle que des gens dansent avec des masques légers pour éviter les bactéries, je veux dire, c'est quand même complètement dingue.
C'est visionnaire.
C'est quand même un truc de fou. Je connais aucune chanson de l'époque qui parle de ça. Enfin voilà, comme si elle avait vu, voilà, et à pas que celui-là, il y en a d'autres, femmes cellophane, effectivement, un espèce de féminisme, moi ce que j'aime dans tous ces textes, et aussi ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on on vient pas revendiquer des trucs, on vient pas faire dire, on fait pas des trucs un peu à la Trust, bon c'est leur truc, hein, je dis pas que c'est pas bien, hein. Ouais. Mais nous, on fait pas ça, on vient pas revendiquer, on fait comme si le sujet était pas important, mais en fait, il l'est. Et quand on écoute oui. toutes les paroles de l'époque, c'est assez incroyable. La chanson Edith Nylon, elle décrit Kim Kardashian, en fait.
Oui, j'allais le dire, c'est juste. Quoi oui, non, ouais, c'est...
Bah oui, c'est dingue. Voilà, ouais. c'est Kim Kardashian, c'est la femme comme ça, complètement refaite, etc. Ouais. Et à l'époque, ouais. c'était pas du tout la norme. Aujourd'hui, c'est devenu la norme, mais ça ne l'était pas, oui.
Ouais.
Voilà. Et puis surtout, Edith Nylon, on avait un bon batteur. Hein, et les groupes, c'est toujours le bon batteur qui compte. Ouais, ouais. Hein, le reste, bon. Voilà. Albert.
J'allais le dire, mais tu l'as dit avant moi.
Ben oui, c'est ouais. Edith Nylon, quand même, c'est le groupe d'Albert, hein.
Voilà.
c'est vrai.
Ouais. Il y avait quand même un look, un style. C'était marketé, ça, ou c'était vraiment totalement spontané?
Pas du tout. Pas du tout marketé. On a eu une révélation.
Spontané.
En fait.
Ouais.
Je reprends ce que disait Zacho et Mylène quand on a été à Londres. On a eu comme une révélation, en fait. On a débarqué comme ça. Et on était pris dans un tourbillon de sons, de chansons, de gens, d'attitudes, d'apparences, etc. C'était pas du tout marketé. On s'est juste pris ça en plein dans la poire et on s'est dit, nous, c'est ça qu'on veut.
Alors nous, on avait cette réputation de 16e machin habituel des bourgeois, des trucs là. Mais nous, en fait, on est arrivé en France. On est d'origine libanaise. On est tous nés à Beyrouth et on est arrivé en France en 69-70.
Ouais.
Et donc, on est émigrés, nous. Voilà.
Fraîchement émigrés à l'époque du groupe. Ouais.
Fraîchement émigrés et on s'est mis à faire du punk. Donc c'est quand même un peu.
Et on n'a pas revendiqué dans aucun de nos textes.
Ouais.
On a revendiqué, on a parlé de ça, on a parlé de l'immigration, mais pas de nous. On en a parlé pour dans les pays de l'Amérique latine, mais pas nous. Et effectivement, ça ne faisait que 10 ans qu'on était là, mais on se sentait parfaitement intégrés et on aurait pu marketer par contre. Et ça aurait été bien plus à la mode de marketer ça que de marketer autre chose.
Ouais.
On n'a pas contredit, en fait, l'histoire des bourgeois. Enfin, voilà, nous, en fait, nos parents sont arrivés avec pas grand-chose en France. Et puis, ils ont eu une certaine réussite professionnelle. Mon père est le père d'Albert. Enfin, notre père, hein, Mylène et moi, est le père d'Albert. Ils ont eu une certaine réussite dont ils étaient très fiers. Donc, comme tout Libanais qui se respecte, quand ça marche, on va habiter dans le 16e, quoi. C'est normal. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et nous, on est plutôt fiers de cette histoire, mais on nous l'a effectivement beaucoup reproché. Encore aujourd'hui, c'est complètement débile d'ailleurs.
C'est sidérant de voir que ça ressort encore aujourd'hui dans certains commentaires. Je veux dire, on a 60 balais aujourd'hui. Et les gars, faut quand même arrêter là.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez gardé du punk quand même, de l'esprit punk? Est-ce que vous sentez toujours un peu punk?
Grave.
Ah bon, ça, moi je m'habitue
grave,
un peu rock'n'roll quand même.
Ouais.
Oui, ouais. Aller à contre-courant, oui, en tout cas, oui, moi j'ai toujours continué à faire ce que les autres ne faisaient pas.
Ouais. Aller voir en dessous des choses aussi, ne pas croire des trucs forcément. Ça, c'est une attitude très punk, un peu de dire ah bon, t'es sûr, ce que tu dis, c'est vrai, tu crois, c'est vrai. Tout ce truc-là, un peu de. De dire que voilà que il faut approfondir un peu les choses plutôt que de les laisser de laisser les dire comme ça quoi voilà ça c'est très punk et aussi dans le boulot moi personnellement de temps en temps j'envoie chier un boulot qui me saoule pour faire autre chose etc tout ça c'est resté quand même.
Ouais, puis, je pense qu'aussi au-delà du punk et de l'étude, etc., c'est qu'on est quand même fondamentalement des musiciens.
Ouais.
Et que c'est quelque chose qui te quitte jamais. Alors, ça prend des, si tu veux, c'est quand même un prisme par lequel, tout compte fait, bah, tu vois, tu mènes ta vie.
Ouais.
Tu juges beaucoup de choses à cette aune-là. Et t'es toujours, on est toujours habité par ça. Enfin, punk ou pas punk, etc. Fondamentalement, c'est le fait d'être des musiciens et que pour nous, bah, c'est une partie très importante de nos personnes, de ce qu'on est. Et que je rebondis un petit peu sur ce qui s'est dit en début, c'est que un des moteurs de notre retour, c'est que ça nous a gratté, ça nous a démangé continuellement pendant toutes ces années.
D'ailleurs, on a fait un groupe, Albert, Laurent et moi.
Oui, on n'a jamais arrêté de jouer.
On a joué tout le temps,
Oui, oui, ça nous a jamais quitté.
Et il m'attendait.
Voilà. Et on t'attendait, oui.
Et en fait, quand on a fait le Petit Bain et le Trabendo, la chose qui nous a frustrés le plus, c'est qu'on aurait aimé en refaire un autre le lendemain et l'après-lendemain. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on a fait ces concerts qui étaient tellement, tellement excitants et très réussis, on s'est dit, mais c'est fini, on va pas. Et je veux dire, après le Petit Bain, j'aurais aimé en faire trois autres après.
Ouais. Tu sais, c'est comme quand tu prépares un repas pendant 15 heures et qu'il est avalé en un quart d'heure. Tu
te dis, exact.
Merde alors.
Alors, Mylène, qu'est-ce que ça représentait pour toi à l'époque d'être une fille sur scène? Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, et le rock, c'était quand même un truc de mec. Il n'y avait pas de revendication, mais quelle était l'attitude du public? Et est-ce que ça, c'est un truc qui a changé ou que tu as constaté des différences là depuis quand tu as monté sur scène?
Alors, pour moi, ça s'est fait assez naturellement, vu que le groupe, j'étais effectivement, on était famille, copains. Au début, ils ne voulaient pas de moi. Au début, ils voulaient, eux, chanter. Puis je me suis portée volontaire. Ils ont dit, bon, pourquoi pas une fille, ce serait pas mal. Ça s'est passé très, très naturellement pour nous. Personne ne s'est vraiment posé de questions. C'était tout à fait naturel. C'était relativement innovant, mais les Anglais y étaient déjà avec les Pretenders, les Susie and the Banshees, les Blondies. Donc, il y avait quand même une grosse mouvance avec justement des chanteuses qui commençaient à apparaître. Le public a très bien réagi. Au contraire, ça a été pris justement que c'était quelque chose de très différent. Et je pense qu'aujourd'hui c'est super d'avoir une femme qui fasse partie du groupe et qui soit la chanteuse du groupe. Donc je pense que c'est pour nous ça s'est fait très naturellement et puis ça fait partie aussi du walk the talk comme on dit. Donc les messages correspondaient parfaitement et les chansons correspondaient parfaitement au fait que il y avait une fille dans le groupe. Mais encore une fois on s'est même pas posé la question. On n'a pas vraiment marketé ça non plus. C'était le groupe, c'était nous. Donc c'était
ouais. Alors vous mentionnez beaucoup l'Angleterre. Vous avez frayé avec le gratin du rock. Je crois qu'il y avait même Mick Jones qui avait fait des voix sur un titre sur Johnny Johnny. Comment vous étiez perçu au milieu de tous ces groupes anglais en fait, comme est-ce que finalement être un groupe français c'était crédible aux yeux de toutes sur cette scène britannique?
Pas trop, non, je pense pas, non. Je pense que les Clash, ils ont aimé notre cohabitation, c'était très sympa au studio, etc. Je pense qu'ils aimaient bien ce qu'on faisait, mais toute la presse anglaise, etc., le rock français, pour eux, c'était anecdotique. Il y a eu quelques articles, le fameux article sur les Stinky Toys, en fait, qui n'était pas une bonne critique, hein, on nous fait tout, bref. Je crois que pour eux, c'était anecdotique. C'est pour eux, c'était comme le rock, italien, quoi. Tu vois, c'était bon. Je pense pas qu'ils en aient tiré grand chose du rock français. Voilà. Maintenant, ça, c'est l'avantage parce que le rock français, en fin de compte, c'est détaché. Le punk français, le rock français. Toute cette mouvance qu'appelait Perrin, Jean-Éric Perrin, les jeunes gens modernes, Frenchy Batchik, le fait qu'il y ait comme ça une espèce de de mépris des Anglais pour le rock français a fait que le rock français a changé de direction. Il est dans une autre direction. Et c'est ce qui en fait aujourd'hui l'originalité, en fait. C'est qu'on reconnaît aujourd'hui un groupe de rock français de l'époque par rapport à un groupe de rock anglais de l'époque. Donc voilà, s'il n'y a pas eu de fusion, à mon avis. Voilà.
Alors, une fois que vous avez arrêté, en fait, donc là, qu'est-ce que vous avez fait, en fait ? C'est un truc. Alors, Zacho, Albert, et vous avez continué à jouer. Mylène, tu as fait complètement autre chose.
Ouais.
Et après, cette séquence, justement, rock, vous l'avez quand même complètement effacée de votre mémoire en disant voilà, ok, on fait un grand reset, on repart à zéro. Ou qu'est-ce qu'il en est resté, en fait, pendant toutes ces années ?
Je ne sais pas, Mylène, tu...
C'est difficile à dire. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, effectivement, j'ai repris mes études et puis je me suis lancée dans une carrière professionnelle. Le rock était toujours là, mais en background quand même. Donc je me suis lancée dans une carrière professionnelle très sérieuse. J'ai fondé ma famille. J'ai vécu en Asie pendant très longtemps, j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai vécu à New York, donc j'ai vraiment fait quelque chose de très 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 différent. Je suis bien sûr restée en contact, mais mon retour à moi s'est fait de façon un peu plus brutale, je dirais. Mais quand il s'est fait, même s'il s'est fait de façon un peu brutale et drastique, je veux dire, le retour s'est fait quand même. C'est comme si le temps n'était pas passé. Quoi. C'est comme si rien n'avait changé. C'est difficile à expliquer.
Ouais. Oui, nous aussi, Albert et moi, nous aussi, on a monté des boîtes, on a fait pas mal de trucs. Mais nous, comme on était parisiens, et Laurent aussi, d'ailleurs, le guitariste, comme on était parisiens et pas Mylène, nous, on a continué à jouer ensemble, en fait. Je pense que si Mylène était restée à Paris, elle aurait peut-être aussi sauté le pas plus tôt, peut-être. Voilà, parce que c'est voilà. Puis il y a une connexion spéciale entre nous quand même. Dû à Edith Nylon, hein. C'est une connexion très particulière que peu de gens ont. Voilà, un groupe de rock, c'est particulier, c'est un gang, c'est un truc un peu comme voilà, il y a une chanson qui s'appelle.
Oui.
La présence qu'il explique un peu, c'est un truc un peu fermé, hein. C'est un cercle fermé.
On a plein de temps devant nous et on a encore plein de choses à dire et on a hâte de faire des tournées, plein de concerts, plein d'albums. Pour rattraper ces 40 ans, il va falloir qu'on fasse au moins 3 albums par an.
Oh, oui. Ben, d'accord.
On espère bien. Alors justement, ouais, alors, le constat comme ça... Observation, vous êtes revenu, vous avez fait des concerts. Votre observation, qu'est-ce qui a changé sur la scène rock française par rapport à l'époque où vous l'avez vécu, vous avez essuyé les plâtres, on va dire, pas de salle de répétition, des circuits assez compliqués. Aujourd'hui, il y a tout, donc c'est plus simple.
Oui, il y a tout, c'est plus simple, effectivement. C'est plus simple, disons, logistiquement. Par contre, le rock est devenu une musique secondaire aujourd'hui. En tout cas, pour les nouvelles générations, c'est devenu une musique qui est moins écoutée. Hein. La musique en France, c'est maintenant le rap, mais de très très loin. Donc, les maisons de disques, pour eux, c'est de la science-fiction de signer un groupe de rock, alors qu'il y a des salles rock, qu'il y a des circuits rock, qu'il y a des locaux de répète, il y a tout ce qu'il faut. Mais par contre, il n'y a plus la volonté. Bon, voilà, maintenant les maisons disent ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Et donc le rock est devenu, et peut-être que le rock maintenant va se retrouver plus rock indépendant, underground, et peut-être qu'il va renaître du fait que ça n'intéresse plus le business. Mais que ça continue à intéresser des gens parce que les gens vont voir des groupes du rock. Alors, le rock, c'est très large. Hein. Si on prend le métal, par exemple, en France, le métal, c'est énorme.
Ouais.
Personne n'en parle jamais dans aucun média. On n'entend jamais parler de ça. Mais les festivals de métal, les groupes de métal comme Godia, tous ces groupes français... Godia.
Si, Godia. Oui, Godia. Oui, c'est la prononciation.
C'est énorme, Godia. On ne se rend même pas compte, en fait. mais personne n'en parle, on le sait pas, voilà, ils sont nulle part présents. Il y a comme ça des scènes rock particulières qui cartonnent. Et moi, et par contre, dans le rock, notre rock à nous, je dirais, il y a plus grand chose. Le peu qu'il y a, moi, ce que j'écoute, c'est pas très intéressant. Ils chantent en anglais, je sais pas pourquoi. Peut-être ils pourront se faire des carrières internationales, mais voilà. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses très intéressantes. Voilà.
Ouais, je suis d'accord. Et moi, je vois ça d'un peu de loin. Donc, je suis plus ce qui se passe aux États-Unis qu'en France. Et je trouve qu'on en revient en France à la variété. Tous les groupes.
Au rap
ou à la variété, effectivement. Et le rock, on l'entend pas trop. Par contre, ce qui est resté et l'héritage énorme du punk et de la new wave de l'époque, c'est dans le look et dans la mode. De Chanel à Louis Vuitton, ce sont les bottes qu'on portait à l'époque, les looks en cuir, les épingles à nourrice. Ça, par contre, dans la mode, il y a eu un impact et une influence énorme sur la mode. Donc le look rock est là, il est resté. Par contre, la musique rock a disparu en parallèle. Aux États-Unis, c'est un peu la même chose, mais il y a quand même aux États-Unis de grands groupes de rock et qui tournent et qui font de la musique et donc le rock effectivement est marginal par rapport au rap et au hip hop mais il y a quand même une culture rock oui il y a quand même beaucoup il se passe encore quand même beaucoup de choses à ce niveau là ici ouais.
Nous en France on croit que Johnny Hallyday c'est du rock par exemple, donc ça on est mal barré à partir de là c'est compliqué.
Ouais. Oui, le grand mythe national.
Oui, c'est ça. Johnny Hallyday, c'est du rock. Donc à partir de là, tout est dit.
Ouais. Alors, quand vous avez composé le nouvel album, est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau dans votre façon de travailler, ou finalement vous avez retrouvé vos automatismes? Comment ça se passe en fait? Comment vous travailliez à l'époque, et puis comment vous travaillez aujourd'hui?
Bah, disons qu'avec le Covid, à l'époque, quand on faisait des nouveaux morceaux, on allait en répète tous ensemble et on disait tiens, j'ai ce truc là, essayons de le tourner, de le travailler, etc. Et là, avec le Covid, avec les confinements, avec la distance. Des uns des autres, les morceaux ont été faits. Pas en groupe, mais plutôt un peu séparément. Puis ensuite, on les a fusionnés. C'est-à-dire, Mylène est venue les chanter, Albert jouait de la batterie. Petit à petit, on les a construits. Mais on les a construits au départ un peu plus terminés que ce qu'on faisait quand on répétait tous ensemble, où les morceaux étaient en construction. Donc là,
Oui, à l'époque, on partait 15 jours tous ensemble. Et on part, oui, ou plus que ça, enfin, pour je dirais, par période de 15 jours, on arrêtait tout et on travaillait des morceaux tous ensemble. Là, effectivement, avec la distance, le temps, les boulots qu'on a, etc., on a fait ça de façon différente, mais on a réussi quand même à recréer une autre façon de travailler où moi, par exemple, je travaillais d'ici avec Laurent ou avec Zacho séparément. Zacho et Laurent ont fait des choses ensemble. Donc, on a fait des duos, puis on s'est retrouvés tous ensemble à 4, à 5, à 6 pour refaire. Donc, on a finalement réussi à trouver une façon de travailler. Et puis, aujourd'hui, c'est quand même super parce qu'avec tout le digital, on peut s'envoyer des morceaux, des pistes, des fichiers. Donc, on a quand même bénéficié énormément de tout ça pour pouvoir travailler à distance. Et on a réussi à, moi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. J'ai enregistré avec le groupe en France, mais j'ai aussi enregistré aux États-Unis, et ce qui était cool aussi dans un studio américain. Donc, ça nous a permis de faire les choses différemment, ça nous a enrichi en même temps, ça nous a permis de retrouver une autre façon de travailler qui finalement nous a plu au final.
Alors pour cet album, vous avez créé votre propre label
Oui, on a créé notre propre label qui s'appelle The Worms Productions. The Worms, c'était le nom d'Edith Nylon à l'époque, on s'appelait The Worms, les vers de terre. et donc c'est en hommage à cette époque-là, quand notre premier concert c'était les Worms. de
C'est parce
Worms.
que, c'est parce qu'on répétait dans une cave. C'est pour
Voilà,
ça. Parce qu'il n'y avait
on
pas
était
de
des
studio de
vers de
répète, on
terre.
était dans une cave.
Voilà. On avait le choix
D'accord.
entre s'appeler Vers de terre ou Rat. On a préféré
Ouais.
Vers de terre. Voilà.
Ouais.
Et donc oui, on a monté ça parce que bah, parce que voilà, aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire. Voilà, si on veut faire de la musique, c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas beaucoup de d'autres possibilités et puis pas très envie non plus. On n'avait pas
Oui.
envie de signer machin bidule.
Ouais.
Je pense que c'était hors sujet et donc on avait envie d'être libre et de faire des choses qu'on a envie de faire. Voilà.
D'accord. Alors, on va écouter un extrait donc du nouvel album, La fin de la vie sauvage. C'est quoi l'histoire de ce titre en fait? Comment il est né?
Alors, la fin de la vie sauvage, il est né, il est né comme tous les morceaux qu'on fait. Ça, c'est toujours drôle. Il est né d'abord comme ça, de petits riffs musicaux, de petites choses comme ça. Et puis, ben voilà, on avait envie de parler un peu de notre senti aujourd'hui sur le monde, mais de façon encore une fois non revendicative, disons citoyenne, où on dit que ben voilà, on est dans l'artificialisation de tout, et que nous et la vie sauvage, c'est aussi la jeunesse qui s'est terminée, donc c'est aussi la fin de la vie sauvage, donc c'est la conjonction de ces deux choses-là qui nous a donné l'idée de cette chanson.
Et oui, et le tourbillon dans lequel on vit. Tout va trop vite, on fait plein de choses à la fois, on fait et ça c'est vraiment la grande différence avec l'époque où nous on a grandi où les choses allaient beaucoup plus lentement, étaient beaucoup plus tranquilles. Donc on décrit cette impression-là dans cette chanson.
Ah, on écoute le titre. Donc c'était La fin de la vie sauvage, un titre extrait du nouvel album d'Edith Nylon. On va passer à l'interview express. Première question, vous ne devez garder qu'un seul album de l'intégralité de votre discothèque, parce que, je ne sais pas, évacuation d'urgence, attaque de zombies, pandémie par exemple, je ne sais pas, en gros il faut partir avec un seul disque. Alors bon, fichier MP3, 45 tours, cassette, peu importe, mais qu'est-ce que vous emportez?
Moi, je prends London Calling avec moi.
Ah ouais. Moi, je prends Forces of Victory, LKJ, moi. Voilà.
Nice.
Qui est quand même un truc pulsation moi reggae, aussi. Pulsation rock, la totale là-dedans.
Moi aussi.
Toi aussi?
LKJ, ouais.
Oh, ouais. Wow.
D'accord.
C'est un des seuls albums que j'écoute au moins une ou deux fois par semaine depuis 40 ans.
Ouais. Mm. Wow.
J'ai pas d'autres exemples.
Le son. Bon,
Albert, il aurait pris. Alors Albert, il aurait pris quoi? Les Stones ou Chuck Berry peut-être?
Laurent.
Laurent.
Laurent, il aurait pris Michel Delpech, je pense.
Aïe.
C'est très bien, Michel Delpech, j'aime beaucoup.
C'est très bien.
Moi aussi.
Ok. Et alors, si vous deviez faire un choix absolument crucial, ne garder qu'un seul titre de toute votre discothèque.
Alors, moi, je garderais la chanson Edith Nylon.
Ah.
Voilà. Pas parce que c'est la meilleure, mais parce que c'est celle qui me plonge dans une époque que j'ai beaucoup aimée, sans nostalgie, sans regret. Mais voilà, je choisis celle-là.
Albert?
Je garderai, je pense, Search and Destroy des Stooges.
Ouais.
Parce qu'il y a quasiment tout dedans, en fin de compte. Voilà.
Moi, je sais pas, il y a tellement de morceaux extraordinaires. Peut-être Space Oddity, je sais pas. Bowie, ouais.
Bowie.
Est-ce qu'il y a des titres, des albums ou des artistes qui vous plongent dans une tristesse absolument insondable?
Ah oui, absolument. Moi, la tristesse absolument insondable, c'est Transformer Lou Reed. Voilà. Ouais. C'est prototype de l'album, où il y a des morceaux, des passages en tout cas complètement, presque, oui, très très triste. Ouais, Transformer, je dirais.
Ouais. Moi, c'est Amy Winehouse. Je pense que le fait évidemment qu'un talent aussi extraordinaire n'est pas pu dépasser 27 ans, je l'écoute tout le temps et ça me plonge dans une grande tristesse.
Ouais. C'est joli.
Moi, c'est Astral Weeks de Van Morrison et je l'écoute très très peu parce que c'est vraiment très beau, mais alors c'est vraiment très très déprimant.
Ah oui, c'est sûr.
Ouais. Ça, franchement,
de quoi il parle? Ouais.
Astral Weeks, Van Morrison. Non.
Alors justement, une fois que vous êtes bien down, qu'est-ce que vous écoutez pour retrouver la patate, vous rebooster?
Rihanna. Il n'y a rien de tel que Rihanna pour rebooster le moral. Rihanna, Bruno Mars, Kanye West, tout ça, c'est parfait.
Ah oui, d'accord. On voit que tu n'es plus en France. Moi, c'est Toots and the Metals, moi.
Ouais. Toots, voilà.
Moi, c'est Toots qui me met dans... Toots ou les Gladiators. Nous, Albert et moi, on est total fans de reggae. Voilà, mais vraiment.
Ouais, c'est vrai.
Vrai fans de reggae.
Moi, ce qui me met d'excellente humeur, etc., c'est quand même la trilogie, les trois premiers singles des Clash, quoi, tout début, où ils avaient quasiment tout dit déjà. Et j'ai une affection particulière pour White Man and Hammersmith Palais.
Ouais.
Et puis j'aime beaucoup Complete Control. Et puis voilà. Enfin, je trouve que ça, c'est un truc, c'est un shot d'énergie et en même temps de force et un peu d'agressivité, mais ça fonctionne. Hein.
Ouais. Et White Man in Hammersmith Palais qui a une forte base reggae en
ah
plus.
Bah oui,
enfin, c'est cohérent justement avec
c'est ce un que morceau, tu... mais c'est une splendeur et puis c'est une très belle synthèse en plus de voilà du rock, du reggae. Le texte est brillant. Pour moi, c'est vraiment une photo parfaite de l'époque et de l'esprit de l'époque.
Ouais. Est-ce qu'il y a des titres, des artistes, des sons sur lesquels vous faites un blocage total que vous ne pouvez pas ou plus écouter?
Ah oui, mais moi j'arrive plus à écouter Police par exemple, pour moi c'est inaudible. Ah oui. Alors que j'aimais bien à l'époque, quand j'écoute Police, je comprends pas en fait. J'ai un vrai blocage, oui, sur Police par exemple, et sur Dire Straits.
Oui.
Mais surtout sur Police, j'arrive plus à écouter. Ouais.
Voilà. Et Crosby, Stills, Nash & Young, ça te plaît?
Ah, j'adore. J'adore, je suis fan.
Des sons, je sais pas, j'avoue que moi, j'ai pas forcément des sons, des artistes que je ne peux pas écouter. Il y a pas mal de choses dans la musique actuelle qui est un peu difficile. Donc moi, je rebascule souvent sur des vieux trucs, les Prince, les Doors, les Led Zeppelin et tout ça. Donc, quand même un peu de mal avec les choses contemporaines, certaines choses contemporaines qui
mais
sont...
Mais non, mais des choses que t'écoutais, que t'écoutes plus maintenant, que tu dis, comment j'ai pu écouter ça, par exemple?
Ah, est-ce que Zappa, ça t'arrive, ça? Zappa, Frank Zappa.
Ah oui.
J'ai réécouté ça et j'ai... Ouais. On l'adorait à l'époque et j'ai trouvé ça effectivement Zappa.
Ah oui, c'est marrant.
On a tout le prog rock, les Yes,
mais, les Genesis et tout ça. Ouais.
C'est absolument incompréhensible et inaudible, quoi.
Mmh. Alors, moi, j'adorais ça.
À l'époque, ils n'ont pas pris une ride.
J'adorais ça. Celui qui est inaudible, qui restait inaudible, c'est Yes. Les autres, il y a des trucs quand même pas mal, mais Yes, c'est difficile. Ouais.
Ouais. Est-ce que dans vos discothèques personnelles, il y a des... on va dire, des choses inavouables ou quelques petits plaisirs coupables.
Adèle. Parce qu'elle chante tellement bien. Enfin, quand je prends mes leçons de voix, j'essaye de faire ce qu'elle fait. Elle chante tellement bien.
Ah oui, Adèle. Oui, c'est vrai. Elle chante bien. Bah, je ne sais pas si c'est un plaisir coupable, mais moi, j'adore Aurel San, voilà, par exemple. Son dernier album, je l'ai trouvé complètement, vraiment formidable. Je dirais que c'est celui-là, parce que je ne suis pas censé écouter du rap, normalement.
Ah oui.
Voilà.
Alors moi, j'ai beaucoup à me faire pardonner, parce que j'ai autant de disques de musique classique que de rock, moi.
Ah bah oui, l'opéra. Mm-hmm.
Moi, je suis, j'adore la musique classique.
Aïe, 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 aïe.
Ben, j'ai hésité entre les variations Goldberg et LKJ longtemps pour le disque de l'île déserte, honnêtement.
Ah oui.
Mais bon.
Mmh. Mmh. Bon, je ne sais pas si tu vas le passer, le podcast, en fait. Hein. On va réfléchir.
Ouais. Alors, vous avez, j'imagine, chacun un panthéon artistique personnel, en fait. Qui vous mettez au sommet de ce panthéon?
Wow.
Vos héros absolus?
Compliqué.
Mozart. je vois pas qui d'autre.
Ça se défend à mort, oui, dans la musique.
Je vois pas qui d'autre.
Ouais.
Ouais.
Dans le rock'n'roll.
Dans le rock'n'roll, moi je dirais mon héros absolu c'est Eddie Cochran. Voilà. Ou David Bowie. Pourquoi
ouais,
pas.
David
Mais
Bowie.
Il a pas toujours fait du rock, David Bowie.
David Bowie sans l'ombre d'une hésitation, moi.
Ouais. Mmh. Peut-être à égalité avec Lou Reed quand même, parce que Lou Reed, le Velvet et tout ça, c'est quand même c'est complètement.
Ouais, mais Bowie plus riche quand même, plus
ouais.
Beaucoup beaucoup plus de ouais.
Ouais, mais moins rock.
Ouais.
Compliqué comme question, ça.
Compliqué, oui.
Oui.
Bah et toi d'ailleurs, en toi qui tu mets au top à part nous?
À part vous, évidemment, il y a The Clash, il y a quand même voilà
ouais.
Le trio Joe Strummer, Mick Jones. Enfin, ouais. Vraiment, ça a été mes grands héros.
Ouais.
Effectivement, il y a Bowie, il y a Iggy,
oui, bien sûr.
Neil Young aussi, ça
c'est vrai.
Neil Young, un peu baba, mais il a exploré tellement de genres en fait que finalement, voilà, c'est quand même un grand quoi. C'est,
Ouais, puis il y a
Après,
toute
il y
la
en a
soul
beaucoup.
aussi, toute la musique
Ouais,
qu'on aime,
c'est
ouais.
infini, hein.
James Brown, compagnie, ouais.
Ouais.
Barry White, c'est pas mal.
Mylène, faut que tu reviennes habiter en France, là. Ça va pas du tout, cette histoire. Hein. Là, c'est pas possible. Hein.
Bon, on a pu habiter à Seattle, sans citer Jimi Hendrix, c'est gonflé, je trouve. Hein.
Oui, c'est vrai, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toute la grunge, oui, c'est clair.
Oui, Kurt Cobain.
Nirvana, oui, absolument.
Pearl Jam.
Pearl Jam, les Foo génial, Fighters, il y a plein, 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 oui.
Ouais.
C'est clair. Bon.
Sacré terreau.
Bah voilà, magnifique. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci Edith Nylon pour
merci à toi.
Cet échange. Alors, on va écouter pour conclure un titre du dernier album dont le titre m'a interpellé, La Clémence de Titus. J'ai trouvé ça digne d'une tragédie de Racine.
Oui, c'est inspiré de ça.
Voilà. Voilà. Donc là, effectivement, on a cité Mozart, on a cité Bach.
Mais oui, 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 oui.
C'est un groupe vachement intello. Hein.
C'est le thème du pardon. C'est sur le thème du pardon. C'est exactement ça. Trahison, ouais. Pardon.
D'accord. Alors, tu t'es réveillé comme ça un jour en disant tiens, j'écris un texte sur la.
Non, j'étais en train de relire le texte original.
D'accord.
Oui, j'étais en train de le relire et je me suis dit c'est parfait pour une chanson. Et puis aux États-Unis, on en parle beaucoup de la second chance pour redemption pour les prisonniers, les gouvernements qui pardonnent, etc. Donc c'est un terme qui est très important. Et la deuxième chance.
D'accord. Ben, c'est un très beau thème. Bon, quelle est la suite, l'actu d'Edith Nylon pour les mois à venir, donc tournée.
Voilà, petite tournée, quelques villes en France, 6, 7, je ne sais pas, on est en train d'organiser ça. Et puis après, on va voir où on est la pandémie, où on est tout ce bordel là. Et on verra, on aimerait bien faire quelques festivals, donc ouais. Si tu as des contacts, n'hésite pas. Voilà.
Ok. Bon, ben, Zacho, Mylène, Albert, Edith Nylon, merci.
Merci
pour cet
enfin.
Échange.
Merci.
À bientôt.
Merci. Bye bye.
Bye.
Bye bye.
Au revoir. Shame.
le volume sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois, musique du générique Nezik. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.